Interview.
1 Dubois et c'est l'heure de l'interview avec au studio la présence de Madame Hélène Bélanger. Bonjour.
Bonjour.
Hélène Bélanger, vous êtes pianiste, professionnelle, même enseignante à la retraite aujourd'hui. Vous êtes ici pour nous parler d'un concert, de deux concerts même, que vous donnerez au relais artistique du Dubois. Ça sera le samedi 28 février à 18h et dimanche 1er mars à 17h. Et donc vous aurez une proposition d'écoute autour de compositeurs tels que Bach ou Clara Schumann, Mélanie Bonis, Claude Debussy, Charles-Valentin Alcan et Frédéric Chopin. Donc, une proposition d'écoute qui prendra bien un bon moment.
Une heure de concert, voilà, avec trois grosses pièces principales, trois compositeurs principaux, en fait, Bach, Chopin et Debussy, qui font un petit peu les trois époques importantes du piano, c'est-à-dire, bon, le classicisme, c'était pas le piano, c'était le clavecin, à l'époque de Bach. Après Chopin, qui a été le roi du piano au moment du romantisme, à partir de 1830, Chopin était vraiment le plus grand compositeur avec Franz Liszt, hein, son concurrent. Mais c'était la grande période du piano romantique où le piano s'est développé, en fait. Déjà, l'instrument, la facture de l'instrument s'est beaucoup développée. Et donc, ça a stimulé la création d'un tas de pianistes, compositeurs autour de ce nouvel instrument. Il y avait la marque Pleyel, la marque Erard, voilà, en France, en tout cas à Paris. Et ensuite, la troisième grande période, c'est Claude Debussy, fin 19e, début 20e, puisqu'il est mort en 1918. Qui a été un renouvellement total de la couleur pianistique, de l'écriture pianistique. Debussy a été beaucoup plus attiré par son expression, en fait, c'était l'amour de la nature. L'amour de la nature et les impressions qu'il avait en face de la nature. On n'exprime plus les sentiments humains comme dans le romantisme. On exprime ses impressions et ses plaisirs de la vie, en fait. Ça fait une couleur pianistique beaucoup plus, je dirais, variée. Parce que les sujets d'inspiration sont très variés, mais et en plus une écriture du piano, oui, c'est ça, beaucoup de façons d'écrire du piano différentes, notamment avec une œuvre que je joue qui s'appelle L'île joyeuse, qui est extrêmement colorée, avec un tas d'ambiances différentes, qui exprime un petit peu la mer, le bruit des vagues, le vent dans la mer. Voyez les sujets d'inspiration de Debussy.
Vous parliez donc de Jean-Sébastien Bach, où vous proposerez quelques extraits, donc œuvre initialement écrite pour le clavecin. Comment s'interprète au piano des œuvres ainsi? Est-ce que vous y avez ajouté votre science pour adapter?
Non. Au piano, on joue le texte tel qu'il est écrit. Il y a pas de grand. On peut jouer au piano Bach. Moi, je le joue depuis que je suis petite. Bach fait partie de la formation musicale de tout le monde. Bach, c'est le père de la musique, on dirait. Et en fait, tous les pianistes ont étudié beaucoup, beaucoup d'œuvres de Bach, et on peut le jouer au piano. Ça a une couleur tout à fait différente au clavecin. Hein, mais au piano, c'est très beau, il n'y a pas de problème. Alors, je vais jouer une partita. Une partita, c'est une suite de danse. La plupart de la musique de l'époque était issue de la danse. Donc, on a une allemande, une courante, une sarabande, un menuet, une gigue, et tout cela était des danses, précédé d'un prélude. On commence par un prélude. C'est une œuvre développée, mais pas trop, ce qui doit durer 13-14 minutes. Il y a des 6 partitas pour clavecin, il y a des partitas pour violon seul. Hein. La partita était une forme de musique très courante à l'époque.
On peut parler de la musique, l'écriture de la musique est en quelque sorte un langage aussi qui évolue. Qu'est-ce qui fait que la musique évolue dans sa manière d'être ?
Il y a déjà l'évolution de la sensibilité. La fin du baroque avec Bach, Bach a vraiment représenté la fin d'un monde assez austère, d'abord très tourné vers la religion. Puisque Bach était organiste, il a beaucoup écrit des œuvres religieuses. Et après, un des fils de Bach a changé complètement de style. Il a eu plusieurs enfants musiciens. Le style a complètement changé et on a appelé ça le style galant, qui nous a amené à Mozart. Alors là, je n'ai pas mis d'œuvre dans ce programme de cette époque-là, mais c'est un style beaucoup plus léger, beaucoup plus théâtral, plus rien à voir avec le père Bach. Et alors, après ce style galant et après Mozart, qui représente quand même le classicisme, on va vers le romantisme. Et là, c'est l'époque privilégiée pour les pianistes et pour le piano. Alors, il y a évidemment l'évolution de l'instrument, des découvertes au niveau technique pour l'instrument. Du temps de Mozart, il y avait le pianoforte, qui était un piano plus petit que les pianos actuels, avec un son beaucoup plus fin, beau. Et on ne pouvait pas faire beaucoup de sons, disons. On n'avait pas une ampleur sonore très grande. Et les nouvelles découvertes de Pleyel et Erard, les deux facteurs de piano français, ont mis à jour des instruments beaucoup plus grands, plus développés, où on pouvait jouer déjà dans des salles plus grandes, ce qui n'était pas possible avant. Et donc, ça a stimulé la créativité des compositeurs. C'est aussi une époque où la littérature aussi a évolué, la peinture, où on s'exprime beaucoup plus au niveau de ses sentiments. Le romantisme est quand même le siècle de... un peu de la souffrance affective. On est malheureux. On est malheureux parce que celle qu'on aime ne veut plus de vous. Enfin, il y a toujours des souffrances qui tournent autour de la relation amoureuse. Et donc, la musique s'en ressent. La musique est quand même, chez Chopin, très une mélodie ornée à la main droite, une mélodie en général très inspirée par le chant, par l'opéra, et à la main gauche, un accompagnement qui est pris dans la pédale, ce qui fait une atmosphère sonore très belle et très nouvelle pour l'époque, avec beaucoup plus d'ambitus, c'est-à-dire des notes aiguës plus aiguës, des notes graves plus graves, on a plus d'espace sonore. Et ça, c'est ce qu'a apporté le romantisme.
Vous parliez de Jean-Sébastien Bach étant quand même faisant partie du programme de formation du pianiste. Oui. C'est un incontournable.
Oui.
Et on peut parler aussi de Aldo Ciccolini, pour lequel vous avez été élève,
oui,
et qui est aussi un grand interprète d'Éric Satie. vous avez proposé d'ailleurs aussi des moments de musique avec ce compositeur,
oui,
Éric Satie. Là, on va carrément à l'opposé de ce qu'était Chopin. Il y a plutôt une légèreté et une insouciance.
Oui, oui, absolument. Mais il faut dire, Aldo Ciccolini, avec qui j'ai travaillé quand j'étais très jeune, a été un interprète extraordinaire de beaucoup de musique. On le connaît comme interprète de Satie, mais il a joué tout Beethoven, Chopin, Liszt. Il a énormément joué Liszt. C'était un virtuose extraordinaire. Mais même en tant que virtuose, il a joué l'intégrale des œuvres de Satie. Il a joué également l'intégrale des œuvres de Debussy. C'est quelqu'un qui avait un répertoire absolument énorme et une passion pour la musique française, alors qu'il était italien. Il résidait en France et il avait une passion pour la musique française.
Nous allons continuer l'émission avec un premier extrait, celui de Frédéric Chopin, avec le titre...
Nocturne. Alors, j'ai choisi le premier nocturne, qui est le plus connu, mais qui est tellement beau, tellement réussi, que Chopin a composé alors qu'il avait 20 ans. Et c'est déjà tout le langage de Chopin. Alors, vous allez entendre cette phrase très ornée à la main droite et ces basses dont je parlais dans la pédale.
Mmh.
donc après cette proposition de Frédéric Chopin, ce qui marque quand même aussi ce romantisme dans la composition musicale, il y a donc autour de cet auteur beaucoup d'amitié. Vous parliez de Franz Liszt aussi,
oui.
Et il y a également cet auteur
Charles Valentin Alcan.
Oui.
Voilà. Alors Charles Valentin Alcan est un compositeur qu'on avait un peu oublié, qu'on a beaucoup réhabilité depuis bien 30 ans maintenant, qui était un très très grand pianiste et organiste, ami de Chopin. Il était même venu, ami et admirateur de Chopin, il était même venu habiter à côté de chez Chopin, dans le même ensemble de maisons au Square d'Orléans à Paris. Et il a récupéré les élèves de Chopin lorsque Chopin est décédé. Chopin est décédé très jeune, à 39 ans, en 1849. Et Charles Valentin Alcan est décédé beaucoup plus tard, en 88, je crois, je ne me souviens plus exactement, 86, 87, 88, quelque chose comme ça. Et donc c'était un très, très, très grand pianiste qui n'avait pas le génie de Chopin et qui était très curieux, très dépressif, qui a écrit de la musique, certaines œuvres un peu obsessionnelles au niveau virtuosité. Et c'était un virtuose incroyable. Et c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais c'était assez extraordinaire quand même. J'ai choisi trois préludes. J'ai choisi de jouer trois préludes, opus 31, qui sont très beaux, tout simplement très, très expressifs et très beaux.
Ensuite, nous avons Clara Schumann, alors, une contemporaine donc,
De Chopin.
Aussi,
sauf qu'elle est décédée très âgée. Elle est née un peu après Chopin. Elle est née en... J'aurais dû réviser, excusez-moi. 1818, je crois. Alors, Clara Schumann, c'est un cas très, très intéressant. D'abord, ça a été une immense pianiste, une grande virtuose qui a commencé à jouer à l'âge de 10 ans en concert, qui a, elle aussi, traversé le siècle, puisqu'elle est décédée en 1898, je crois, on la connaît sous le nom de Schumann, puisqu'elle était l'épouse de Robert Schumann. Et en fait, elle s'appelait Clara Wieck. Alors, c'était une petite fille extrêmement douée, qui était la fille du plus grand professeur de piano à l'époque, Frédéric Wieck, en Allemagne. Hein, ils n'étaient pas en France. Et ce Frédéric Wieck était un homme irascible, terrible. Et c'est là qu'elle a rencontré, en travaillant avec son père, qui avait des élèves, elle a rencontré son futur mari, Robert Schumann. Et il l'encourageait beaucoup parce qu'elle était tellement, tellement douée. Et ils ont eu beaucoup de soucis pour faire émerger leur amour parce que le père ne voulait pas d'un gendre musicien, curieusement, d'un gendre qui était un compositeur, quoi, qui gagnait pas assez d'argent pour sa fille. Donc, ils ont mis beaucoup de temps avant de pouvoir se marier. Et quand ils se sont mariés, enfin, Robert Schumann, qui encourageait beaucoup sa femme avant, là, lui a dit, ben, ma chérie, maintenant, tu vas rester à la maison. Donc, je plaisante un peu, mais c'était quand même ça. Et donc, au bout d'un an, elle était tellement dépressive qu'elle a recommencé, qu'elle a bravé l'autorité du mari pour recommencer ses concerts. Alors, elle a composé quand elle était très jeune et après, elle a arrêté par manque de temps. Elle a eu 8 enfants avec son mari. Robert Schumann était très dépressif, a fait une tentative de suicide. Il est devenu fou et il a été interné. Ce qui a fait pour elle une vie très dramatique, en fait. C'était une femme qui a une vie... qui avait très bien commencé, et puis après, ça a été vraiment très dur. Mais elle a continué toute sa vie, jusqu'à la fin du 19e siècle, à transmettre le piano. D'abord, elle avait des élèves, à transmettre le piano, et à jouer, à défendre l'œuvre de son mari, qui, disons-le, est génial, il n'y a pas de problème. Alors, les œuvres de... Moi, j'aime beaucoup les œuvres de Clara Schumann, qui ne sont pas très nombreuses. Et celle que je joue là... Elle l'a composé à 15 ans. C'est un nocturne vraiment, mais d'une sensibilité musicale extraordinaire, je trouve. Et c'est nouveau au niveau de l'écriture. Elle a inventé des choses. C'est vraiment une œuvre très jolie. Voilà, donc Clara Schumann doit être réhabilitée.
Je reviens par rapport au jeu du pianiste hein, qui interprète une composition. Est-ce qu'il y a l'importance peut-être de s'intéresser à l'histoire de ce compositeur, d'y prélever peut-être les émotions, les intentions de sa composition en fonction de son existence? Est-ce que cela est lié? Est-ce que vous le vérifiez vous-même?
Tout à fait. C'est très important de se faire une petite bibliothèque autour, de lire les biographies, de comprendre mieux la personnalité. Ça aide beaucoup, beaucoup à être dans la bonne sensibilité. Et en plus, en général, ces compositeurs ont écrit des choses. Enfin, on a des témoignages de techniques pianistiques, comment on jouait à l'époque. Et donc ça, c'est très important aussi. On ne joue pas Bach comme on joue Clara Schumann du tout. Ce n'est pas le même toucher, c'est pas la même sensibilité, évidemment. Donc on doit s'adapter à tout ça.
Nous avons écouté ce matin cette émission en direct, la composition de Mélanie Bonis, qui s'intitule Mélisandre. Donc une artiste qui s'inspire de littérature, par exemple.
Pas vraiment, je pense pas. Elle a fait tout un volume qui s'appelle Femmes de légende. Donc comme elle était assez féministe, quoi, elle a eu beaucoup de mal à se faire jouer, à se faire entendre. Donc, elle a choisi des figures de femmes différentes. Là, je vais jouer, à ses concerts, je vais jouer Mélisande et Desdémone. Il y a également Ophélie, vous voyez, des grandes figures de femmes. Mais elle, je ne pense pas qu'elle ait, à ma connaissance, elle n'a pas une inspiration spécialement littéraire, non. Alors que Schumann, oui, avait une inspiration littéraire, lui. Debussy aussi. Littéraire et pictural aussi. Hein. Ces gens-là étaient passionnés de peinture également.
À Claude Debussy, hein, que vous proposerez également. Et juste comme vous le disiez, par qui le scandale arrive.
Alors Debussy, oui, on peut dire ça, par qui le scandale arrive. D'ailleurs, son opéra, c'est Péléas et Mélisande, hein, c'est comme un petit clin d'œil à Mel Bonis. Ils se sont connus au conservatoire, ils ont eu les mêmes professeurs. Quoique, Debussy est un petit peu plus jeune, mais Debussy n'a jamais parlé dans sa dans ses courriers. Il a beaucoup écrit sur la musique et il a beaucoup écrit de lettres. Il n'a jamais parlé de Melbonis. Ça ne l'intéressait pas, après, apparemment. Alors, Debussy a révolutionné complètement l'écriture du piano, en fait, et l'inspiration et l'écriture. Avec lui, on a des couleurs sonores totalement différentes du romantisme, alors que Melbonis est resté encore dans les arpèges, dans un, quelque chose qui est un peu englobé dans la pédale. Lui, il découvre des sons nouveaux, des atmosphères différentes. C'est très difficile à expliquer avec des mots, je dois dire, mais c'est vraiment quelqu'un qui, même maintenant, enfin, a révolutionné jusqu'à nos jours. Un siècle plus tard, on se réfère encore à Debussy au niveau de l'invention de l'écriture. C'est quand même quelque chose qui a, pour ainsi dire, pas été dépassé. Et alors, il était lui-même grand pianiste, et ses compositions ne sont jamais... c'est toujours de l'invention. Il n'y a jamais des formules toutes faites, comme avec le classicisme, avec Beethoven, on a des gammes, des arpèges, ça. Non, c'est jamais des formules. Toutes les formules pianistiques viennent de son imaginaire. C'est pour ça que c'est nouveau, en fait. Et voilà, oui, c'est ça qui est extraordinaire chez lui. Moi, j'ai réalisé une intégrale du piano de Debussy, donc il y a 84 œuvres que j'ai toutes jouées lors du centenaire de Debussy en 2018. Ouais. Et donc, j'avais eu précédemment un prix au concours de Debussy, concours international. Et je dois dire que c'est la musique. Quand on sort du classicisme et du romantisme, où il y a quand même des exigences, un cadre très exigeant, avec Debussy, tout à coup, on prend l'air. On est dans un univers où on respire. Et d'ailleurs, lui disait lui-même, il vaut mieux écouter le vent dans les branches plutôt que de travailler des heures. Il était contre le travail mécanique. Et jamais ses œuvres ne sont mécaniques, en fait.
Debussy, révolutionnaire de la musique. Il y a aussi, j'avais envie d'opérer un raccourci avec la musique américaine, un pays qui se développe, qui se découvre, oui. Et qui expérimente aussi. Et pour cela, vous avez proposé aussi une musique américaine du XXe siècle.
Ah, je suis passionnée de musique américaine du XXe siècle. Malheureusement, on peut pas la jouer tout le temps, partout. Il faut d'abord des instruments modernes. Fait des instruments, c'est assez exigeant. Et j'adore la musique américaine du XXe siècle. Et c'est, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la musique allemande et française s'est, à une époque, développée vers une sensibilité très dure. C'est pas très sensuel. Bon, si on pense tout ce qui est... toute la sensibilité allemande après l'école de Vienne, Schönberg, Berg, Webern, où il y a des choses extraordinaires. Hein. Mais les compositeurs allemands ont été un peu austères. Voilà. Et en France aussi, bon, Boulez, c'est une très grande figure, hein, mais c'est quand même, il y a une austérité dans tout ce langage-là que les Américains n'ont pas du tout. Ils n'ont pas ce passé musical sur lequel ils s'appuient. Et en fait, ils ont créé quelque chose qui est beaucoup plus dans la jouissance de la vie, dans la jouissance du rythme, du son. Moi, j'adore les opéras de John Adams, par exemple, et ceux de Phil Glass également. Et donc, j'ai beaucoup joué cette musique. Et j'ai très envie de la rejouer, en fait. Peut-être que je vais proposer un concert à Die avec musique américaine. Voilà.
Voilà, George Gershwin. Hein,
et Gershwin, évidemment. Bon, oui, évidemment, Gershwin, ça c'est le premier. Sauf que Gershwin, c'est quand même encore un peu le jazz. Enfin, c'est inspiré par le jazz. Alors que les autres, après, John Adams, Phil Glass et tout ça, c'est plus du tout le jazz.
Juste une parenthèse, Morton Feldman, vous connaissez ?
Bien sûr.
C'est quelqu'un qu'on entend très peu aussi.
On entend très peu. Il faut dire que c'est une sensibilité très spéciale. C'est très une époque où... on avait envie de dégraisser un peu la musique, si je puis dire. C'est Morton Feldman, il y a des œuvres, c'est quelques notes et du silence. Du silence, du silence, quelques notes. Alors, ça fut une atmosphère assez extraordinaire, mais ce n'est pas pour tous les publics quand même, je crois. Je ne sais pas.
C'est une musique qui propose à chaque spectateur ou auditeur de composer lui-même cette mélodie intérieure.
Ah, peut-être. Peut-être.
C'est,
que...
Chaque note appelle peut-être, peut-être une pensée.
Oui, peut-être. Mais, ça, peut-être ça peut convoquer l'imaginaire des auditeurs. Oui, en fait, ça doit être ça, oui.
Nous allons passer aussi à Monsieur Satie hein, et ses amis. Hein. Ça, c'est aussi le début du XXe siècle, le mouvement Dada. Ouais. Il y a cet engouement et cette union de tous les arts possibles ouais. autour de d'une certaine ouais. insouciance, ouais. je dirais.
Époque extraordinaire. Ça, je dois dire, le tournant du XIXe siècle est une époque extraordinaire, avec une création incroyable. Tous ces artistes-là qui ont émergé, qui ont révolutionné tout, en fait. Alors, Satie a eu une première époque autour de 19, un peu avant 1900, Gnossienne, Gymnopédie, toutes ces, où il y a eu des musiques très, très nouvelles au niveau sonore et très en même temps très contemplative, lente, où il n'y avait pas beaucoup de notes, alors qu'on sortait d'une période romantique très virtuose. Donc ça, ça a aidé. Et après, bon, il y a eu l'épisode de la guerre, hein, malheureusement. Et après, il y a eu l'épisode qu'on appelle les années folles. Après la guerre, où tout le monde s'est un peu lâché, si je puis dire. Et là, il y a eu une deuxième période d'œuvres. Mais même la période de la guerre, il y avait quand même encore beaucoup de créations à Paris. Il y avait Cocteau, Picasso. Si vous imaginez que Satie mangeait tous les jours à midi avec Picasso, c'est incroyable de penser ça à notre époque. Ils étaient tous amis, surtout dans le milieu de Montmartre ou de Montparnasse. Ils étaient tous amis et ils se voyaient tout le temps, ce qui devait faire une stimulation artistique absolument incroyable. Donc, il y avait beaucoup moins d'individualisme, je crois, que maintenant. Et c'était une époque, bon, rêvée, en fait.
Et puis, chaque soir, rentrer à pied dans la banlieue du Sud.
Ah oui, ça, c'est une anecdote, une anecdote pas très gaie, mais Eric Satie, probablement, je ne sais pas s'il avait, probablement, oui, par manque d'argent. Oui, il n'avait pas d'argent de toute façon, hein, il était très pauvre. Il habitait à Arcueil. Et tous les soirs, après avoir bien fait la fête, parce que quand même, il devait bien boire, il rentrait à pied à Arcueil, dans son petit studio où il n'invitait jamais personne, qu'on a découvert après sa mort, où il y avait tout son courrier, il n'avait jamais ouvert une lettre de ce qu'on lui écrivait. C'était un être très curieux. Vraiment très curieux, mais un grand poète, quoi, en fait, un grand poète et du piano. Alors lui aussi, pas de la même manière que Debussy, avec qui il a été très ami d'ailleurs, hein. Pas de la même manière, il a quand même révolutionné aussi le langage pianistique, avec justement, comme vous le disiez, cet art de l'épure, en fait, quelque chose de très sobre et très, très clair comme son, très clair.
Le piano, cet instrument créé au 19e siècle.
Oui, fin 18e, début 19e, oui.
C'est un instrument qui permet un orchestre à lui tout seul dans la composition. D'ailleurs, certainement que beaucoup de compositeurs ont utilisé le piano hein, pour leur composition. Il s'est aussi énormément démocratisé. Qui n'a pas eu à un moment donné un piano mural, un piano d'étude? Est-ce que c'est un objet qui était très courant, en fait?
C'est un objet qui était extrêmement courant au 19e siècle. Tout le monde avait son piano. Moi, je suis désespérée parce que plus personne n'a de piano maintenant. Alors, on n'a qu'à la rigueur des quelques pianos électriques, mais c'est vrai qu'au 19e siècle, dans toutes les maisons, il y avait un piano. Hein, un piano et souvent, un piano à queue même. Hein. Ça, c'est sûr que c'était un instrument très courant et pas toutes les jeunes filles de bonne famille faisaient du piano. Et je vous dirais même que un peu plus tôt, à l'époque de Beethoven, pour un homme, faire du pianoforte, à l'époque ça s'appelait pianoforte, pour un homme, c'était très bien pour se marier de faire du pianoforte. Les hommes avaient beaucoup de succès auprès des femmes quand ils faisaient du piano. Et c'est sûr que c'est un instrument roi qui permet tout. C'est ça qui est très bien de montrer dans un programme divers langages, parce que ça permet toutes les couleurs sonores, ça permet l'orchestre, ça permet le minimalisme de Satie, ça permet vraiment tout, le piano, c'est sûr. Non pas que je n'aime pas les autres instruments, hein, mais je dois dire que oui, le piano est complet, vraiment complet.
On aura peut-être le bonheur de vous entendre au-delà de ces deux dates, oui. Puisque vous êtes sur le Diwa. Mmh. Donc, il s'établit peut-être aussi un pied-à-terre pour amener une écoute, hein, notamment avec le relais artistique du Diwa.
Oui, mais voilà.
Vous êtes ouverte peut-être à d'autres propositions.
Oui, je prends les autres propositions, tout à fait.
Vous avez vous-même votre piano, j'imagine.
Ah, moi, j'ai deux grands pianos, deux magnifiques pianos. J'ai un grand Steinway, un trois quarts Steinway, et puis j'ai un piano Ibach de 1912, un piano plus ancien qui a une couleur sonore très douce. Voilà, c'est bien d'avoir des instruments différents pour les couleurs différentes, justement.
Nous allons terminer cette émission avec un autre extrait, celui de Charles Valentin Alcan, avec ce titre
Le temps qui n'est plus, une œuvre nostalgique, donc.
Hélène Bélanger, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venue nous parler de ces deux concerts que vous proposerez, je le rappelle, le samedi 28 février à 18h, dimanche 1er mars à 17h. Il semble que pour le dimanche, ça soit complet.
Presque, pour ainsi dire, complet.
Pour ainsi dire, et pour s'y inscrire, ce qui est conseillé, c'est par le 06 84 79 09 56. Est-ce que vous avez un blog ou une page internet pour découvrir votre travail ?
J'ai un site internet qui est hélène.bélanger.free.fr. J'ai un site internet, vous pouvez regarder, mais il n'est pas à jour. Je ne l'ai pas tenu à jour. Je suis très paresseuse avec ce genre de choses.
Est-ce qu'il y a des propositions aussi que l'on peut écouter sur le réseau internet ?
Oui, il y a des œuvres. J'ai beaucoup joué la musique des pianistes. Compositeur de l'époque de Chopin. Donc, il y a sur Internet, il y a des œuvres de Ferdinand Hiller qui sont très intéressantes. Ça, je dois dire, sur YouTube, vous pouvez écouter ça. Il y a je crois qu'il y a d'autres choses aussi de cette époque-là. Voilà.
Bonne soirée.
Merci. Merci de votre accueil. Au revoir.
Au revoir.